Bonjour, bonjour Yves, au micro de Divergence FM, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 24 notes secondes, une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent, de préférence sur de grands écrans, de préférence avec de la pellicule, mais hélas c'est bientôt fini depuis un peu plus d'un siècle. Eh bien l'émission de ce jour va être une émission de sequel, une émission de deux, une émission où nous ferons les épisodes 2 de films qui ont marché, vous le savez, c'est presque un genre à part entière auquel d'ailleurs on a consacré quelques livres. Alors ça se fait peu en France, mais ça se fait, pas toujours bienvenu, on pourra préférer les bronzés aux bronzés font du ski, ce genre de choses, mais aux États-Unis c'est bien évidemment une industrie, ça l'a toujours été, et c'est plutôt le toujours été que nous allons évoquer, puisque c'est plutôt du côté des années 80 que nous allons explorer les films qui sont des suites de films qui ont bien marché, sans que pour autant ça implique que même marche bien, mais vous l'aurez compris, allez, assez d'intellectualisme, passons ou quasiment à la musique. On va commencer par évoquer la suite d'un film tourné en 1984 par Joe Dante sur un scénario de Chris Columbus qui se fera un nom plus tard, non seulement comme scénariste mais aussi comme réalisateur, notamment des deux premiers, si je me souviens bien, Harry Potter. Chris Columbus qui, en 1984, imagina un scénario absolument redoutable pour un film qui ne l'était pas moins. Ça s'appelait Gremlins. Vous ne pouvez pas avoir oublié, même si vous allez certainement tomber dans le piège, il ne faut pas les mouiller, il ne faut pas les nourrir après minuit. Mais non, ce ne sont pas les Gremlins, ce sont les Mogwai qu'il ne faut pas mouiller et nourrir après minuit, parce qu'après, c'est trop tard et ça devient les Gremlins. Et en 1984, cela avait été un tel triomphe que, bien évidemment, 2 ans plus tard, la même joyeuse équipe, à savoir Joe Dante à la réalisation et Jerry Goldsmith à la musique, récidiva. C'est curieux sans l'être, les acteurs du film, Jack Galligan et Phoebe Cates, ont été bien oubliés. Il faut dire que ce n'étaient pas eux les véritables vedettes de ce film et les Gremlins qu'on aime adorer ou qu'on adore détester. Dans le deuxième épisode, c'était évidemment plus spectaculaire, il y avait plus de Gremlins et pour les aficionados, il y avait même Jerry Goldsmith, le maître en personne, en train de téléphoner dans une scène. Regardez bien, il a une coupe de cheveux au bol, on n'en fait plus maintenant. Et évidemment, c'était un film bourré de clins d'œil, c'était aussi drôle que le numéro 1. Et on va s'écouter un petit extrait de la bande originale joyeusement en musique. N'oubliez pas de ne pas les nourrir après minuit. De toute façon, ça fait grossir dans 24 notes secondes.
We'll be right back.
Ah, il faudrait s'écouter ça tous les matins, juste avant ou juste après la douche. Un extrait de la bande originale de Gremlins 2, un film de Joey Dante tourné en 1990. J'avais été un peu rapide tout à l'heure. C'était bien évidemment la marche des Gremlins. On l'entendait aussi dans Gremlins 1. Un film tout à fait réussi, tout à fait réjouissant à l'aune du premier épisode, puisque ce jour, nous consacrons 24 notes secondes aux épisodes 2. Et bien évidemment, à la fin, tous les méchants Gremlins se mouraient, car je vous rappelle que les Gremlins n'aiment pas la lumière, le tout sous le regard apitoyé ou presque de notre Mogwai national qui s'appelle Gizmo, bien sûr, vous vous en souvenez, ça fait partie de la culture internationale et vraiment un film très très réjouissant. Là encore, le film suivant, sans transition, comme dirait la marionnette, fait aussi partie de la culture internationale. Alors je vais lancer un petit débat et ce sera très vite fait. C'est le second opus de la Guerre des Étoiles, alias Star Wars, qui en compte 6, enfin 3 d'abord et ensuite, mais qui en même temps sont avant ceux qui eux-mêmes les suivent d'après, mais juste après, bref, vous l'aurez compris, on s'y perd un peu, en tout cas, et c'est le débat, celui-là c'est le meilleur, c'est le deuxième, ça s'appelle The Empire Strikes Back, un film d'Irvin Kershner, tourné en 1980, Irvin Kershner auquel George Lucas, qui avait été bien évidemment le réalisateur du premier épisode, confia ce second épisode qui se situe juste après le premier. Ce n'est pas toujours le cas dans les pseudo-suites, c'est-à-dire juste après la description de l'étoile de la mort, puisque ce n'est pas la guerre des étoiles, je vous le rappelle, mais les guerres de l'étoile, c'est comme ça en français. On reprend les mêmes et on recommence, on se demande pourquoi ils avaient détruit l'étoile, si c'est pour se faire à nouveau pourchasser dans l'espace par les mêmes, mais bref, ça fait partie du business. Le premier film avait été un tel triomphe qu'il en fallait un second, un troisième, je ne vais pas recommencer la suite d'avant. Et puis j'oublie bien évidemment toutes les séries animées, les livres, etc. et ce genre de choses. On retrouvait dans les rôles principaux Mark Hamill, on retrouvait Harrison Ford, on retrouvait Carrie Fisher, on retrouvait Anthony Daliens, mais oui, c'est lui qui faisait C-3PO. On retrouvait aussi Kenny Baker, vous ne le savez pas, mais c'est lui qui faisait R2-D2. On retrouvait Frank Oz, et non pas Franz Oz, comme dit ma petite fiche, le génial avantissime seigneur des Muppets qui jouait, si l'on veut, le rôle de maître Yoda. On retrouvait aussi il n'était pas dans le premier opus, à ma connaissance, Billy Dee Williams. Et puis surtout, on retrouvait... Allez, je vous laisse écouter la musique, vous allez comprendre tout de suite dans 24 notes secondes. We'll be right back. ton père. Et oui, ça aussi, ça fait partie de la culture internationale. Un extrait de la bande originale de The Empire Strikes Back, l'Empire contre-attaque, un film d'Irving Kirchner tourné en 1980. Et c'était évidemment le Darth Vader theme, l'Imperial March de John Williams, certainement une des quintessences du style de John Williams, avec un petit flutio maléfique avec des cordes en veux-tu. En voilà, jusqu'à vous en faire trembler le ventre, vraiment de la musique absolument magistrale pour un film qui ne l'était pas moins. Alors je lance le débat, la polémique, tout ce que vous voulez, la controverse. C'était meilleur que le premier et c'était de loin le meilleur des six, le plus sombre, le plus inspiré, le plus visuellement réussi, le plus dramatiquement cornélien, bref, une totale réussite, tournée dans des studios anglais. C'est drôle, comme beaucoup de grands films furent tournés dans des studios anglais, avec, bien évidemment, dans les rôles principaux, je l'ai déjà tous cité, j'ai quand même oublié de citer Ben Kenobi, alias Alec Guinness, sœur Alec Guinness aussi. Et souvent, si je puis me permettre cette petite confidence personnelle, quand je regarde certains de mes collègues de travail, je me demande s'ils ne sont pas déjà passés du côté obscur de la force, et souvent la réponse est oui. Mais voilà, c'était un petit extrait de cette bande originale. Sachons aussi qu'Irving Kirchner nous a quittés, que c'est bien regrettable, car il avait su relever un défi certainement très lourd, car succéder à la guerre des étoiles, ce n'était pas rien. Mais le scénario co-signé par deux génies un peu méconnus, Leigh Brackett et Lawrence Kasdan, qui devint plus tard un brillantissime réalisateur, eh bien, les aidait beaucoup. Et puis, il y avait la marche impériale, alors ça, moi, tiens, je mettrais bien ça à mon enterrement juste après La Panthère Rose d'Henry Mancini, bien sûr. On va rester dans les numéros 2, on va rester dans les méga succès commerciaux, mais c'est bien un peu la figure obligée du genre, parce qu'il est bien rare, ça arrive, cela dit, il est bien rare qu'on fasse des épisodes 2 quand l'épisode 1 n'a pas été un gros succès commercial. Alors, que dire ? On a déjà parlé de la guerre des étoiles, on a déjà parlé des Gremlins, mais que dire alors des Dents de la Mer, sorti en 1975 sur les écrans, qui n'était pas le premier film, mais quasiment d'un jeune prodige du cinéma américain, qui réussit miracle de la technique, du marketing, du Botox, de PowerPoint, de Photoshop, tout ce que vous voulez, qui réussit encore à passer pour un jeune premier 35 ans plus tard, en tout cas en 1975, eh bien, Steven Spielberg avait encore des preuves à faire et ma foi, il les fit cette année-là, puisque les plages furent désertées et les cinémas remplis par cette histoire d'un grand requin blanc qui sème l'émoi quelque part au large des côtes de la petite ville d'Amity. On retrouvait dans les rôles principaux Roy Scheider, Robert Shaw et Richard Dreyfuss. La musique était signée de John Williams. On va écouter un petit extrait du 2, donc je ne vous en dis pas plus. Et bien évidemment, en 1978, soit moins de 3 ans plus tard, Just When You Think It Was Safe to Go Back in the Water, juste quand vous pensiez qu'on pouvait à nouveau aller dans l'eau, disait la publicité de l'époque. Mes jeunes années. Bref, eh bien, à nouveau, le requin, ou plutôt sa femme, si je me souviens bien, enfin, si tant est que les requins et des femmes ne l'ont pas ergoté, revenait au large d'Amity. Alors, Robert Shaw et Richard Dreyfuss, on se souvient peut-être, nous avaient quittés à la fin du premier épisode de façon un peu coupante. Il ne restait donc plus que Roy Scheider qui se remettait au boulot. Ma foi, c'était là aussi bienvenu. C'était un Français, malgré un nom un peu Scrabble comme genre, Jeannot Swark, qui s'y collait. Et puis, ma foi, il s'en tirait plutôt bien. Ensuite, il y eut le 3, le 4, je ne sais plus, la 3D. On s'y perd un peu. On n'a pas encore tenté le remake en numérique, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, la musique, elle était bien évidemment signée à nouveau de John Williams, qui, si je me souviens bien, avait obtenu l'Oscar pour la première bande originale. Et on va s'en écouter un très bel et troublant extrait, c'est que j'étais en train de régler ma bouteille d'oxygène à vos palmes, à vos tubas, un extrait des Dents de la Mer numéro 2 de 24 notes secondes. Thank you. Évidemment, ça craque un peu. Un bel extrait sous-marin de la bande originale des Dents de la Mer numéro 2, un film de Janos Vark, tourné en 1978 et qui, bien évidemment, sans jeu de mots ou avec comme vous le souhaitez, se trouvait dans le sillage d'un premier opus tourné en 1975 par rien moins que Steven Spielberg, Les Dents de la Mer, d'après un roman de Peter Benchley. Un film absolument magistral, je parle du premier opus avec des effets spéciaux de briques et de broc si on se lit le making-of du tournage, mais ma foi ça marchait plutôt bien. Et le seul problème de ce genre de film et de celui-là comme de sa suite, eh bien c'est que depuis s'est développée une psychose anti-requin qui fait que ces pauvres animaux qui généralement tuent peu de personnes par an, vraiment très très peu, et puis ma foi des fois c'est un peu de leur faute aussi, eh bien ces pauvres animaux sont chassés à la fois pour les manger, en tout cas pour en manger certaines parties, et pour rejeter les autres à la mer, ce n'est guère ragoûtant, et aussi parce que justement ils sont victimes de leur mauvaise réputation, alors que d'une part, je le répète, il y a peu d'accidents, et d'autre part il y a aussi peu d'espèces qui causent des accidents. La majorité des requins sont bien paisibles, rappelons que le requin ne peut pas s'arrêter de nager même quand il dort, parce que sinon il meurt. Voilà une vie bien triste pour un animal bien beau auquel peut-être nous pourrions consacrer, je plaisante, une émission de 24 notes secondes. Alors nous nous acheminons durement mais sûrement, ou plutôt doucement mais sourdement, vers la fin de cette émission de 24 notes secondes qui était consacrée à des suites plutôt brillantissimes. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas, sinon musicalement, du dernier film que nous allons évoquer. Ce film était en 1985 la suite d'un premier opus. Alors je sais, c'est frustrant, nous évoquons les premiers opus sans parler de leur bande originale, mais ma foi, une prochaine émission, nous ferons les numéros 1. Un film qui, en 1983, avait vu Sylvester Stallone, qui avait déjà triomphé dans le rôle de Rocky, eh bien, endosser un nouveau costume, celui d'un soldat revenu du Vietnam, comment dire, un peu perturbé et vaguement revanchard. Un soldat qui, bien évidemment, vous l'aviez compris, s'appelait John Rambo et qui maintenant s'est passé dans le langage populaire, un ancien béret vert, eh oui, médaillé du Vietnam et qui se retrouvait démobilisé quelque part dans une petite ville où il se trouvait rapidement en butte aux aspects agressifs et vindicatifs du shérif, interprété par l'impeccable Brian Dennehy. On retrouvait aussi David Caruso, je ne m'en souvenais pas des experts, dans un petit rôle je suppose, et surtout, surtout vers la fin, on retrouvait Richard Crenna dans le rôle du colonel Trotman, ce n'est pas ma guerre colonel, etc, etc, je ne vais pas vous le faire, en tout cas, il faut le dire et je ne plaisante plus, c'était un très grand film, un film de Ted Kotcheff, tourné en pleine nature avec un Sylvester Stallone, qui n'était pas encore le vaguement caricatural qu'il est devenu depuis. Un scénario solide d'après un roman, me semble-t-il, mais je ne l'ai pas sur ma petite fiche, ce n'est pas grave. Et une musique sublimissime de Jerry Goldsmith, comme l'était, je vous rassure, vous allez l'écouter, la bande originale de l'opus numéro 2 qui s'appelait, comment aurait bien pu s'appeler l'opus numéro 2 ? Ah oui, Rambo 2, ça s'appelait. Rambo 2, La Mission, un film tourné en 1985 par le viril George Pancosmatos, et qui voyait notre jeune Rambo, alias Sylvester Stallone, eh bien retourné au Vietnam pour y libérer des prisonniers. C'était quand même un peu exagéré, mais je dois confesser à ma grande honte, je m'en souviens encore, j'y étais que le premier jour à la première séance. J'étais dans un cinéma à Paris de Montparnasse pour voir cette suite quasiment au premier rang. Je pourrais vous montrer le fauteuil si on y retournait. C'était là, un petit peu caricatural. Jerry Goldsmith avait troqué l'orchestre symphonique de la première partition pour quelque chose d'entièrement électronique. Ça déménageait pas mal. Ah oui, petite curiosité, le scénario était co-signé de Sylvester Stallone et de James Cameron. Mais oui, James Cameron à ses débuts. La photo était de Jack Hardy, mais vous vous en moquez déjà. La musique, la musique, la musique. Allez, on y va. Un large extrait de la bande originale pour conclure cette émission de Rambo de la mission. Une musique de Jerry Goldsmith dans 24 notes secondes. colonel, 24 notes secondes, c'est fini pour aujourd'hui. C'est pas grave, John, ça reviendra. À bientôt, see you, bye bye.